Le coureur belge Eddy Merckx possède sans conteste le plus beau palmarès de l'histoire du cyclisme. Surnommé le cannibale au sein du peloton en raison de son appétit de victoire qui paraissait insatiable, il a remporté un total de 525 courses tout au long de sa carrière. En plein milieu de celle-ci, en 1971, sa suprématie a été remise en cause en raison de la forme éblouissante de son rival, l'Espagnol Luis Ocaña. Les deux hommes sont à couteau tiré pour l'édition du Tour de France qui va connaître un dénouement prématuré sur la route d'un petit col des Pyrénées. Depuis ce 12 juillet 1971, les supporters de chacun des deux coureurs n'ont jamais vraiment trouvé de réponse à cette question obsédante. Que se serait-il passé jusqu'à l'arrivée si ce jour-là, Luis Ocaña n'était pas tombé dans la descente du col de Mante?
Rétrosport, une émission proposée par Gilles de Genève, un grand événement sportif du passé, comme si vous y étiez.
En cette année 1971, Eddy Merckx possède déjà un palmarès éblouissant à son actif. Son premier véritable coup de tonnerre, il l'a porté en 1964 sur les routes de Haute-Savoie en devenant champion du monde amateur à Sallanches, alors que tout le peloton roulait à fond derrière lui afin de le rattraper dans le dernier tour de circuit. L'année suivante, à tout juste 20 ans, il devient professionnel et, à partir de ce moment, il multiplie les exploits au point de créer une véritable exaspération au sein des autres concurrents. Lorsqu'il se présente au départ du Tour de France, il a déjà remporté à 4 reprises la célèbre course Milan-San Remo, mais aussi le Tour d'Italie en 1968 et 1970, ainsi que le championnat du monde des professionnels en 1967. La Grande Boucle, c'est le surnom du Tour de France, il l'a gagné en 1969 pour sa première participation, avec une facilité déconcertante, reconduite un an plus tard, où l'on peut considérer qu'il n'a quasiment pas eu d'adversaire à sa mesure. De ce fait, il devient, au sein du peloton, l'homme à abattre, celui dont on ne peut plus supporter la domination écrasante. Tous les coureurs en sont convaincus au seuil de cette nouvelle saison. On en a assez que le cannibale ne nous laisse que des osselets à ronger. Il faut se liguer pour le pousser dans ses retranchements et le mettre à terre. Dès le critérium du Dauphiné libéré, qui se déroule en mai, Merckx donne l'impression d'être moins dominateur. Lors de la troisième étape, dont l'arrivée est jugée à Annecy devant le casino, il doit laisser la victoire d'étape à Bernard Labourdette, coéquipier du coureur espagnol Luis Ocaña, qui reste en embuscade et voit que le Belge n'est pas au firmament en ce printemps 1971. Eddy Merckx remporte le critérium du Dauphiné libéré, mais avec 54 secondes d'avance seulement sur l'Espagnol. Pour ce dernier, les choses sont claires. Il va tout faire pour l'attaquer dans le Tour de France, cette grande épreuve qui est aussi une immense fête populaire nationale.
bien dommage de travailler chaque jour pour gagner sa vie, pour se lever. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. Il pleut ma mère dans mon grenier, les tuiles, c'est le vent qui les a emportées. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. J'avais des poules au poulailler, c'est le renard qui cette nuit les a mangées. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. Georges, mon ennemi, il a toujours pour brève celle dans son fusil. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. C'est bien dommage de travailler chaque jour pour gagner sa vie, pour se lever. Mais pour le reste, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. Passer le temps. Passer le temps. Passer le temps.
Vendue à plus de 500 000 exemplaires, la chanson « L'amour, ça fait passer le temps » interprétée par Marcel Amont a été l'un des grands succès de cette année 1971. Nous nous retrouvons à Mulhouse le 26 juin 1971, date à laquelle est donné le départ de ce Tour de France qui promet d'être passionnant en raison de cette coalition anti-Merckx au sein du peloton. Après l'épreuve contre la montre de 11 km, Eddy Merckx endosse logiquement le maillot jaune de leader à l'issue de la première journée de course. Il faut attendre le 7 juillet et l'étape Saint-Étienne-Grenoble pour que le coureur belge soit inquiété. Il crève dans la descente du col du Cucheron et tarde à être dépanné par la voiture suiveuse de son équipe Molteni. Les autres coureurs s'en aperçoivent et passent à l'attaque. Il doit lutter seul dans l'ascension du col de Porte afin de revenir, mais à l'arrivée au vélodrome de Grenoble, il termine à 1 minute et 38 secondes du vainqueur et doit laisser pour quelques secondes le maillot jaune au Néerlandais Joop Zoetemelk. La leçon qu'en tirent tous ses adversaires est claire. Aujourd'hui, dans l'école de la Chartreuse, Merckx n'était pas au mieux. On va donc l'attaquer demain en plus fort afin de tenter de le faire exploser. Le complot va fonctionner à merveille. Dès le début de la côte de Laffrey, Luis Ocaña passe à l'assaut car il a vu que le cannibale n'est pas en forme ce 8 juillet. Au sommet de la côte, dont il a vécu l'ascension dans la douleur, Merckx a environ 2 minutes de retard sur le coureur espagnol. Celui-ci comprend qu'il faut poursuivre l'attaque afin d'augmenter son avance. L'arrivée de l'étape est encore loin, mais qu'importe, l'occasion est trop belle. Dans l'ascension du col du Noyer, Merckx est en perdition et personne parmi les autres coureurs ne vient l'aider afin de limiter les dégâts. Ils sont tous trop heureux de le voir lutter et sombrer. Le jour tant attendu du déboulonnage de la statue est arrivé. Dans le dernier col de la journée qui conduit à la station d'Orcières-Merlette, Ocagna porte l'estocade. À l'arrivée, le coureur belge termine à 8 minutes et 42 secondes, ce qui signifie en clair qu'il a quasiment perdu le Tour de France. Luis Ocagna prend le maillot jaune de leader et rayonne sur la plus haute marche du podium. J'ai connu à Orcières-Merlette le plus terrible échec de toute ma carrière. Pour la première fois, je subissais la loi d'un coureur plus fort que moi et je comprenais la détresse du vaincu. Oui, Eddy Merckx est à terre et cette fois-ci, il n'est pas question de dire que ce n'est rien.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent et c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile. En emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
La chanson « Ce n'est rien » est interprétée en 1971 par Julien Clerc sur des paroles écrites par Étienne Rodagil. Le vendredi 9 juillet, c'est jour de repos à Orcières-Merlette. L'ensemble du public ainsi que la caravane du Tour sont encore sous le charme de la victoire d'étape éclatante de Luis Ocagna la veille. Merckx, quant à lui, est abasourdi face au retard qu'il accumule au classement général et qui le condamne à attaquer tous les jours comme un forcené s'il veut gagner ce Tour de France. Afin de se dégourdir les jambes, il profite de cette journée de repos pour rouler un peu avec ses équipiers et reconnaître le tout début de parcours de l'étape du lendemain dont le départ est donné au sommet de la station. Une idée se met à germer dans son esprit. Il me semble que demain, dès le départ, on peut tenter quelque chose. Il informe ses équipiers de son plan inédit qui consiste, dès le baisser du drapeau et avant même le premier virage en épingle à cheveux, à rouler à fond avec toute son équipe afin de distancer le reste du peloton et donc Luis Ocaña. Le lendemain, le plan fonctionne comme prévu. Le coureur espagnol est encore en queue de peloton alors que les lieutenants de Merckx dévalent la pente qui va les conduire au final à Marseille, à 250 km de là. Lorsque les coureurs se présentent sur le Vieux-Port, ils ont 1h30 d'avance par rapport à l'horaire d'arrivée le plus favorable qui avait été prévu. La ville est plongée dans la sieste et des journalistes allemands chargés de couvrir l'événement se font surprendre et manquent l'arrivée de la course alors que le coureur belge et ses coéquipiers sont déjà sous la douche. Ce jour-là, Merckx reprend 2 minutes et 10 secondes à Ocaña, ce qui est peu, mais psychologiquement, il a marqué un point et il sait désormais que tout va se jouer dans la traversée des Pyrénées quelques jours plus tard. Le lundi 12 juillet, le Tour de France aborde les Pyrénées et des milliers de supporters espagnols ont fait le déplacement afin de voir leur héros avec le maillot jaune sur ses épaules. Luis Ocaña, qui va être acclamé sur tout le parcours, est confiant dans une telle ambiance. Eddy Merckx sait qu'il ne lui reste plus que 6 jours afin de jouer son va-tout. Il doit attaquer sans arrêt le coureur espagnol s'il veut finir en vainqueur à Paris. Il porte une première attaque dans le col du Portet d'Aspet, mais Ocaña revient à sa hauteur. Les coureurs abordent ensuite le col de Mante et Merckx remet ça, mais l'espagnol revient à nouveau. Le suspense est là et personne ou presque ne remarque que le ciel est en train de s'obscurcir et qu'un orage va éclater. C'est exactement ce qui va se produire au moment où les coureurs entament la descente du col. Subitement, le ciel libère des trombes d'eau, de la grêle, et les éclairs qui jaillissent entre les nuages donnent l'impression qu'il s'agit d'un orage biblique. Les freins des bicyclettes ne répondent plus, la trajectoire est devenue incontrôlable. Tous ceux qui ont vécu ce court moment sont unanimes. Pendant un quart d'heure, ils ont vécu une scène digne de figurer dans l'Apocalypse de Saint Jean. Dans l'un des virages de la descente du col, Eddy Merckx tombe mais se relève immédiatement. Ocaña, qui le suit, tombe aussi, mais au moment où il s'apprête à se relever, il est heurté de plein fouet par un autre coureur qui, pas plus que les autres, n'arrive à maîtriser sa trajectoire, alors que l'eau et la boue ruissellent sur la chaussée. Il ne souffre heureusement d'aucune fracture, mais pour lui, hélas, le Tour de France 1971 est terminé. L'intérêt de la course est désormais réduit à néant, un peu comme une symphonie qui demeure inachevée. À l'arrivée de l'étape à Luchon, Merckx refuse d'endosser le maillot jaune qui lui est destiné après l'abandon d'Ocaña et pense à abandonner car il sait qu'il ne peut plus se battre à la régulière dans la plus célèbre des courses cyclistes. Quelques jours plus tard, il remporte son troisième Tour de France d'affilée au terme d'une course dont on ne saura jamais réellement quelle en aurait été l'issue sans la chute du coureur espagnol. Dans ses carnets de route publiés en Belgique à la fin de l'année 1971, Eddy Merckx écrit ceci. « Il m'est difficile, dans les circonstances présentes, d'affirmer que j'allais battre l'espagnol. Mais j'avais avant l'accident de plus en plus la conviction que j'allais réussir. Hélas, aujourd'hui, ce ne sont plus que des mots, et je ne pourrais jamais prouver que j'étais capable de le réaliser. » Dans l'interview qu'il donne à l'arrivée à Paris le 18 juillet de la Grande Boucle, Eddy Merckx reparle de ce Tour de France et de la souffrance qu'elle lui a occasionnée.
Vous avez enfin le sourire aujourd'hui. Il vous avait quitté il y a fort longtemps, ce sourire.
Ben écoutez, bien sûr, je crois que ce Tour de France était très, très dur pour moi. Lorsque j'ai commencé à marcher, il y a eu la chute d'Ocaña. Et vraiment, il restera toujours un doute sur ce Tour de France pour moi. Et c'est vraiment malheureux.
Est-ce qu'il y a un moment qui vous a été particulièrement pénible, mais très très pénible?
Ben, particulièrement pénible, je crois dire que j'étais plus en difficulté. C'est dans la côte de la Frée à sortir Grenoble, parce que j'étais absolument pas bien du tout. Et je crois que c'était mon moment le plus pénible du tour.
Avez-vous songé à ce moment-là que vous aviez peut-être perdu le tour?
Ben écoutez, au soir d'Orsières-Mélettes, j'y songeais, mais par exemple le soir de Marseille, j'y recroyais de nouveau. Alors, j'étais de nouveau absolument confiant.
Le mythe Merckx a un petit peu été battu en brèche. Finalement, il y en a beaucoup qui pensent que c'est un bien. Quel est votre avis? Vous avez montré que vous n'étiez pas le super homme et que vous étiez finalement un homme, comme tout le monde, avec un peu plus de capacité et un peu plus de volonté.
Écoutez, je me suis toujours considéré comme un homme normal, bien sûr, parce que les victoires que j'ai obtenues au précédent, je les obtenais avec beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, et je crois que beaucoup disaient que ça allait facilement, et c'est pas vrai.
Lorsque vous avez perdu le maillot jaune, vous avez accepté cette perte avec beaucoup de dignité.
Je crois qu'il faut rester, le sport cyclisme est un sport très dur, et c'est un sport avant tout. Et je crois qu'il faut pouvoir accepter la défaite, surtout lorsqu'on est battu par plus fort que soi.
Il vous reste encore maintenant les championnats du monde. Je pense que vous devez déjà y penser très sérieusement.
Écoutez, oui, bien sûr, il y a le championnat du monde. Et puis, je voudrais aussi m'attaquer encore cette année-ci au record du monde de l'heure.
Quelques semaines plus tard, à Mendrisio, en Suisse italienne, et au terme d'une course impériale, Merckx devient pour la seconde fois champion du monde des professionnels, ce qui fait oublier son passage à vide vécu dans la fameuse étape d'Orsières-Merlette. Louis Ocaña, quant à lui, pourra enfin réaliser son rêve de gagner le Tour de France 2 années plus tard, en 1973, mais en l'absence d'Eddy Merckx, qui, cette année-là, avait décidé de se consacrer au Tour d'Espagne et au Tour d'Italie.
C'était Rétrosport, une émission proposée par Gilles de Genève.